La prise en charge du patient lombalgique aigu. Retour d'expérience. Premièrement, décharger les cabinets de médecine générale. Les consultations en urgence en première intention constituent approximativement 70% des motifs de consultation dans mon cabinet durant les 6 mois de l'année qui encadrent la période estivale, car j'exerce en zone balnéaire. Et après bientôt 10 ans de pratique, je les considère comme notre cœur de métier à bien des égards. Premièrement, pour la satisfaction professionnelle et le résultat clinique qu'elles permettent d'obtenir sur un temps relativement court. Deuxièmement, car elles font l'objet d'une demande accrue des cabinets médicaux aux alentours, qui sont débordés et cherchent à se décharger du premier motif de consultation en cabinet libéral, lequel est fonctionnel dans la majorité des cas. Troisièmement, parce qu'il répond à la demande de plus en plus omniprésente des patients de diminuer, voire de s'exempter de la prise de médicaments antalgiques et ou anti-inflammatoires pour ce type de symptomatologie. Enfin, sa prise en charge nécessite une consultation complète, regroupant les différents aspects de notre métier. Un diagnostic d'exclusion, un diagnostic différentiel, un geste thérapeutique ciblé, des conseils adaptés visant à rassurer le patient et diminuer la charge cognitive qui majore ses douleurs, et enfin, un suivi à distance sur quelques jours qui permet de confirmer le diagnostic fonctionnel, mais également de constater sans ambiguïté l'efficacité de notre action. Une relation gagnant-gagnant avec nos partenaires médicaux. La prise en charge des lombalgiques aiguës en première intention ou de tout autre motif de consultation musculo-squelettique permet d'instaurer une solide relation de confiance avec les médecins. Non pas par les résultats que nous obtenons lorsque la réponse est fonctionnelle, mais au contraire, par notre maîtrise du diagnostic d'exclusion et notre capacité à réorienter uniquement les quelques patients qui consultent pour des raisons médicales et que l'on doit adresser au médecin avec une lettre synthétique et bien argumentée. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, les secrétariats médicaux réorientent les patients consultants pour ce type de symptomatologie dans mon cabinet sans passer par la case médecin. Et cela n'a strictement rien à voir avec mes compétences de thérapeute manuel. Deuxièmement, less is more. Le maître mot dans les consultations en aigu est l'efficience, c'est-à-dire viser l'efficacité optimale en un temps bref, et ce pour de multiples raisons. Première raison, le patient est généralement dans un état pro-inflammatoire qui l'empêche de changer fréquemment de position et en exclut certaines. Deuxième raison, le phénomène de stase liquidienne qui se produit en position statique prolongée est contre-productif et péjore le traitement fonctionnel effectué si le patient doit se relever après plus de 10 minutes passées dans la même position. Troisième raison, les capacités du système sensorimoteur, sur lequel s'appuie notre traitement manuel pour permettre de récupérer de la mobilité, sont déjà exacerbées par les influx nociceptifs et limitent la faculté d'adaptation posturale de notre patient. Cette particularité est d'ailleurs bien comprise des rebouteux qui pratiquent bien souvent en position orthostatique sur des zones ciblées à fort impact sensorimoteur. Enfin, quatrième raison, c'est l'impact cognitif qui est primordial dans notre traitement. Entendez par là l'effet placebo. Si le patient quitte votre cabinet rassuré et avec un regain de mobilité, vous pouvez être assuré que le processus de guérison n'en sera que plus performant. Et pour cela, vous devez vous débarrasser en premier lieu des positions statiques prolongées. Troisièmement, la notion de goutte d'eau. Le mécanisme lésionnel est bien souvent anodin, voire incompris de nos patients, car il est en relation avec un phénomène de décompensation qui s'exprime en réponse à une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette goutte d'eau peut être de plusieurs ordres, d'ordre mécanique, lorsque le patient se penche en avant simplement pour ramasser un stylo par exemple. La stimulation également peut être d'origine posturale, lorsque les patients habitués à marcher avec leur semelle orthopédique les quittent temporairement pour mettre leur tongue par exemple, lorsque on est en période estivale. Le plan viscéral peut impacter également le lombalgique, lorsque les patients modifient leur alimentation suffisamment pour occasionner par exemple des troubles de la motilité, voire des réactions inflammatoires au niveau de la muqueuse, type de colite spasmodique par exemple, et qui vont se manifester par une hyperréactivité du muscle iliopsoas. Enfin, on peut avoir des stimulations d'ordre gynécologique, par exemple dans le cadre du syndrome prémenstruel et des troubles circulatoires qui l'accompagnent pendant quelques jours. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le déclencheur, il traduira toujours une désadaptation du système musculo-squelettique, devenu temporairement incapable d'adapter et de compenser des dysfonctions de mobilité loco-régionale. Dans le cadre du lumbago, et en dehors de toute lésion discale bien entendu, il faudra généralement répondre à cette symptomatologie en restituant la mobilité au niveau des articulations sacro-iliaques et de la charnière dorsolombaire, en priorité, et en dehors bien entendu de tout cas particulier. Quatrièmement, le diagnostic d'exclusion et le diagnostic différentiel. Il s'agit à mon sens de la partie la plus importante de la consultation dans le cas du lombalgique aigu. Car s'il est rare de tomber sur un patient qui nécessite d'être réorienté vers son médecin, les quelques cas que vous détecterez auront un fort impact sur votre notoriété en tant que professionnel de santé, que ce soit aux yeux de vos patients, mais aussi de ceux de vos partenaires médicaux. Et ils vous éviteront les désagréments des patients qui n'ont aucun résultat après votre consultation. Cet examen est une routine, constituée de questions et de tests ciblés à la manière des opérateurs du 15. Il nécessite une formation et une pratique régulière pour être employé le plus rapidement et le plus efficacement possible. L'objectif de cet article, vous l'avez compris, n'est pas de vous former à cette pratique, mais sachez à titre d'exemple que l'on retrouvera dans le cas du lombalgique aigu, l'analyse des circonstances d'apparition, chute, trouble du cycle de chez la femme par exemple, l'analyse de la douleur, présence ou non d'une impulsivité à l'atout, les irradiations, le caractère de la douleur, l'analyse de l'attitude du patient, patient qui arrive en shift, ou patient qui décrit le signe du caddie par exemple, les signes d'accompagnement, signes généraux, neurologiques, les antécédents de cancer, surtout ceux à risque de métastase osseuse, les troubles digestifs ou les signes rhumatologiques périphériques devront être systématiquement recherchés. Enfin, les tests neurodynamiques de provocation et les tests neurologiques seront exécutés efficacement. L'ensemble de cet examen s'effectue le plus rapidement possible pour limiter la durée de station statique de notre patient, comme nous l'avons vu précédemment. Et celui-ci peut même être effectué en grande partie en amont de la consultation, lors de la prise de rendez-vous téléphonique par exemple. Si le patient doit être réorienté, il sera primordial de lui confier un courrier à remettre à son médecin le plus synthétique et objectif possible pour ne pas outrepasser nos compétences, tout en justifiant notre démarche de manière argumentée en employant un lexique exclusivement médical. Le temps fort de la consultation consistera alors à expliquer de manière claire, synthétique et rationnelle la raison de cette réorientation afin que notre patient en comprenne les motifs et ne mette pas en doute vos compétences de praticien. Cinquièmement, faire abstraction de la coopération du patient dans le choix des techniques. La charge cognitive liée à l'impotence fonctionnelle, l'intensité de la douleur, l'anxiété associée à la consultation pour certains patients qui craignent d'y avoir mal lors du traitement, doivent nous orienter en priorité vers des techniques indolores, rapides et sans participation active du patient. Ainsi, les techniques fonctionnelles requérant sa coopération, ne serait-ce qu'en matière de respiration, sont bien souvent source de douleurs et de réflexes de défense qui péjorent la qualité de notre traitement. Il en est de même pour les techniques de levée de tension musculaire, par exemple, qui vont demander au patient un effort de contraction dont il est difficile d'anticiper la conséquence en fonction du seuil de la douleur propre à chacun. Chaque praticien choisira la technique la plus adaptée en fonction de son niveau de maîtrise et de son expérience professionnelle. Mais en ce qui me concerne, j'opte préférentiellement pour une technique de décoaptation des articulations sacro-iliaques en décubitus latéral, car elle se trouve être la position antalgique de la majorité des patients lombalgiques. Parfaitement indolore et particulièrement efficace pour redonner de la mobilité à l'unité pelvienne. Cette manœuvre sera toujours précédée d'une détente du diaphragme et du système viscéral pouvant être pratiquée assise ou pareil en décubitus latéral, ainsi que des techniques dites de recoil sur la charnière dorsolombaire, particulièrement intéressantes car non invasives et pouvant être mises en place sur n'importe quel patient, dans n'importe quelle position, à l'instar des techniques de reboutement. Enfin, sixièmement, les conseils et le suivi. La prise en charge du patient lombalgique aigu n'a pas vocation à rechercher les liens ostéopathiques et les mécanismes complexes qui ont amené le patient à décompenser. Comme nous l'avons vu précédemment, cela n'est pas possible dans ce type de séance pour de multiples raisons. Il est donc essentiel d'en informer le patient et d'effectuer un suivi rigoureux de l'évolution de sa symptomatologie. Car, premièrement, cela vous permettra de prendre confiance en vous et d'acquérir une expérience qui vous rendra de plus en plus efficient avec le temps. Ensuite, cela vous permettra de déceler les erreurs de diagnostic ou les techniques les plus adaptées dans votre bagage thérapeutique, car on apprend avant toutes ces erreurs. Enfin, cela renforcera la confiance de vos patients en vos soins, car le manque de disponibilité des professionnels de santé constitue le principal grief exprimé par les patients dans notre société actuellement. Concrètement, lorsque le diagnostic différentiel a permis d'éliminer toute cause médicale, je considère, à titre personnel, que les patients doivent avoir un gain de mobilité, entendez par là également une diminution de douleur, de l'ordre de 80% dans les 3 à 4 jours suivant mon intervention, dans les cas où ils ne souhaitent pas prendre d'anti-inflammatoires en complément. Le cas échéant, je leur demande de m'en informer par téléphone afin d'en déterminer la cause. Effectivement, il nous est tout à fait impossible de prétendre, honnêtement, être directement responsable d'une amélioration survenant au-delà de 10 jours après nos soins. Car rien n'indique que le patient n'aurait pas été mieux après la même période en dehors de toute consultation. Et nous devons nous préserver des biais de confirmation qui altèrent notre crédibilité et consistent à voir dans l'amélioration clinique de nos patients un résultat direct de notre traitement à mesure que le temps s'allonge. Mais cela n'est qu'un avis personnel, bien sûr.